Escalade. La Méridienne.
Allez, aujourd'hui, on est en compagnie de Elisabeth Lucan et Ludovic Jiquel. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Et merci d'être venus nous voir. Vous êtes les fondateurs de Sonaissance. La question qui me vient tout de suite à l'idée, c'est quoi Sonaissance? Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que c'est derrière ce nom?
Eh bien, derrière ce nom, il y a une couveuse initiative, un incubateur pour accompagner des porteurs de projets qui créent leur boîte. Et une partie animation de territoire.
On a choisi le format associatif, vu qu'il fait partie de l'économie sociale et solidaire, et dans une vraie intention de faire émerger des projets, pouvoir mettre en lien, effectivement, des compétences, des besoins du territoire, dans un modèle de, on va dire, l'économie circulaire, ou ce qu'on appelle aussi l'économie régénérative ou symbiotique, c'est-à-dire qu'avec une vision très, on va dire, transversale des différents enjeux sociétaux. Ouais. Donc on a vraiment cette éthique sociale et écologique quand on accompagne effectivement ces porteurs de projets ou même effectivement des projets d'autres acteurs dans lesquels on s'implique également.
Et donc concrètement, si j'ai bien compris, vous cherchez des gens qui ont des projets d'entreprise, qui ont envie de créer quelque chose, des initiatives, et vous cherchez plutôt des gens qui ont certaines valeurs, ou en tout cas vous avez envie de les diriger vers certaines valeurs. Vous m'avez parlé d'économie régénérative, de lien social.
Oui, on dit que toute personne peut être accompagnée avec une intention, effectivement, d'aller dans ces valeurs d'économie sociale et solidaire.
Solidaire, ouais.
Voilà. Et après, nous, notre accompagnement très concret, il amène aussi la personne à se poser ce genre de questions, à se positionner et à voir comment c'est possible pour elle, de manière très pragmatique aussi.
Ça a été entériné par la loi de 2014. Pragmatiquement, officiellement, ça rassemble toutes les structures associatives, des coopératives, les mutuelles. Donc ça représente en France plusieurs millions de personnes, plusieurs millions d'employés, plusieurs milliards effectivement de chiffre d'affaires. Et derrière, on va dire, ce mot, il se cache, on va dire, trois enjeux: celui d'une démocratie dans le monde de l'entreprise, avec effectivement une condition qu'il y a une personne, une voix, effectivement, dans la gouvernance des structures. Il y a une idée de lucrativité limitée, c'est-à-dire que on n'est pas sur l'économie de papa à effectivement faire fleurir des stock options ou des actions pour des personnes, pour des tiers. Donc voilà, il y a derrière évidemment des enjeux de capitalisation qui vont derrière. Et il y a un enjeu où l'objet social de la structure doit correspondre à quelque chose de l'ordre de l'intérêt collectif. On sans forcément s'en rendre compte au quotidien. Effectivement, on est en lien avec des structures, est-ce qu'ils sont nombreuses, effectivement, qui partagent ces valeurs-là.
Ouais.
Alors, effectivement, Ludovic vient de le dire, il y a des statuts qui sont nativement de l'ESS, mais il y a également d'autres entreprises dont l'objet irait dans ce sens, qui sont des structures juridiques classiques, qui peuvent aussi avoir un agrément pour être dites d'économie sociale et solidaire. Et au-delà de ce statut et de ce secteur d'activité, parce que c'est un secteur d'activité aujourd'hui, il y a également toutes les personnes, en fait, qui sont porteurs de projets ou qui ont des boîtes, qui ont envie d'aller dans ces valeurs et dans ce sens-là, en fait. C'est pour ça qu'on parle d'intention. On a déjà accompagné un bijoutier. A priori, ça l'est pas.
Ouais.
Mais dans la manière de le concevoir, dans la réutilisation d'or plutôt que de l'achat d'or, on sait que la chaîne de valeur peut être compliquée pour l'être humain. Voilà, c'est dans sa manière et dans les processus ensuite qui vont être utilisés qu'on peut se dire.
Et pourquoi est-ce que vous, Elisabeth et Ludovic, vous êtes dans ce projet-là? Qu'est-ce qui fait que vous deux, vous vous êtes engagés dans son essence? Si on retrace l'histoire, comment est-ce que vous en êtes arrivés à créer cette association?
C'est une longue histoire. s'est rejoint sur effectivement nos parcours qui sont singuliers, qui sont pas linéaires. Je vais peut-être commencer à décrire brièvement le mien. J'ai une formation d'ingénieur informatique et je n'ai pas beaucoup travaillé dans ce milieu-là. J'ai pas mal voyagé. J'ai, au niveau personnel, été cofondateur d'un habitat participatif où je vis encore depuis 11 ans à Saint-Germain-en-Mont-d'Or. Et j'ai aussi un beau passage dans le monde de l'entrepreneuriat et le monde de l'économie sociale et solidaire en ayant entrepris au sein de la coopérative, une coopérative qui s'appelle Oxalis, et autour de la formation et de l'accompagnement sur les enjeux d'usage dans les milieux du bâtiment. Voilà, un métier en émergence appelé assistance à maîtrise d'usage. Donc, bien en lien avec les dimensions participatives, avec les enjeux du changement en lien aux enjeux écologiques. Et le confinement, comme d'autres, m'a fait voir, donner l'envie, effectivement, de m'investir de manière beaucoup plus locale et de transformer mon territoire. Donc, mon territoire, c'est le Val de Saône. Avec les outils, un engagement dans le milieu de la transition citoyenne. Et ce qui m'a fait aussi croiser le parcours d'Elisabeth, où on s'est bien retrouvé sur cette idée de partir d'un territoire et de voir comment on peut le transformer avec les outils de l'éducation populaire, mais également effectivement des nouvelles manières d'entreprendre d'imaginer l'économie.
Et vous, Elisabeth, c'est quoi votre parcours? Qu'est-ce qui vous a mené à son naissance?
C'est tout un parcours, effectivement, un chemin de vie qui m'a amené là. Moi, j'ai une formation financière, d'ingénierie financière à la base.
Okay.
Sciences éco.
Ok.
Et dans mon parcours, j'ai 8 ans de fonction opérationnelle financière.
Et le but du jeu, là, c'est d'être le plus lucratif possible, non? Ou c'est une idée que je me suis mis en tête quand vous avez dit recherche financière
L'ingénierie financière, c'est effectivement tout ce qui se passe au niveau de la bourse.
Ouais.
C'est les traders, mais c'est aussi toutes les opérations de haut de bilan. Le haut de bilan, c'est quand on rachète des boîtes, quand on fusionne.
Ok.
Voilà. Mais il y a des très belles choses. Le but de ces outils... l'essence qu'on met derrière et l'intention qu'on met derrière, c'est ça qui va faire. Mais l'outil en lui-même, il peut être très bien.
Oui.
Et c'est important de savoir parler à des financiers quand on est entrepreneur aussi.
J'imagine.
L'axe économique est aussi important que dans le développement durable, on a l'économie aussi.
Ouais.
Et pour avoir des projets viables, il faut avoir cet aspect-là. Voilà, donc 8 ans, donc 4 ans de contrôle de gestion. Et 4 ans dans le monde bancaire. Voilà, j'ai commencé dans le monde bancaire. Et puis, j'ai fait 20 ans comme conseil en organisation et système d'information. Donc, c'est un peu d'informatique aussi.
Okay.
Comment on met finalement l'informatique au service des changements d'organisation. Voilà, donc j'ai toujours travaillé dans des grands groupes ou des petites structures, mais dans le secteur privé.
Ouais.
Et donc, j'amenais les gens à changer... d'un point A à un point B, selon les gouvernances et les stratégies d'entreprise.
Okay.
Et à un moment, aussi parce que je suis maman de 3 enfants, je ne pouvais plus être à la fois chef de projet international, à bosser à 100 et quelques pourcents de mon temps, et en même temps m'occuper de mes pitchouns qui avaient des troubles 10, qui étaient des TDAH, enfin tous ces trucs-là.
Ouais.
Du coup, depuis 2015, je suis indépendante.
Okay. Voilà.
Et je reste dans l'accompagnement. Et puis petit à petit, je me suis construite aussi une pensée autour de comment, pour faire changer la société, il faut aussi commencer par se changer soi. Et donc je suis retournée à l'école, j'ai fait un mémoire de recherche. Mmh. Recherche intervention socio-économique sur l'impact des représentations mentales sur la capacité des entrepreneurs à créer des modèles économiques durables.
Ok. Ça a l'air d'être une question complexe, là. C'est quoi une représentation mentale?
Et tu me posais la question, justement, de la finance, l'ingénierie financière, c'est faire du pognon.
C'est la représentation mentale que j'en avais.
C'est exactement ça. Tu projettes quelque chose. Donc, il y a ce qu'on apprend, il y a la représentation qu'on en a.
Ouais.
Et pour créer le monde d'aujourd'hui ou de demain dont on a besoin, il faut sortir de ces représentations. Tout le monde le sait, c'est pas facile. Voilà, donc j'ai fait ce mémoire-là pour poser des bases. Mmh. Et c'est à l'issue que j'ai rencontré Ludovic sur cette envie de transition de territoire. Voilà, en passant par la transition et le chemin personnel et professionnel.
Calade sur le 100.9 et radio-calade.fr.
Vous avez créé Sonaissance ensemble, et quand je vous ai demandé qu'est-ce que Sonaissance, vous m'avez dit une couveuse d'initiative. Et alors, comment est-ce qu'une association devient couveuse d'initiative et qu'est-ce que ça veut dire?
Alors, le terme couveuse est utilisé sur d'autres, notamment dans le monde de l'économie sociale et solidaire, comme une structure dans laquelle on peut rentrer pour pouvoir créer l'activité. On a, là, techniquement, on n'offre pas cette possibilité aux personnes qu'on accompagne. Mais on les couvre dans le sens où on en prend soin et on accompagne l'émergence. Donc, en l'occurrence, nous avons des accompagnements qu'on appelle entrepreneurs de sa vie, on y retournera. Et c'est l'accompagnement de la formation individuelle et collective. Enfin, il y a une partie collective. Voilà, sur quelques mois, pour aider les personnes à voilà, structurer leur projet, à faire le lien avec leurs valeurs, à avancer aussi sur les aspects de modèle économique évidemment, mais aussi les aspects d'identité et de communication. Et les enjeux sur la fin, on va sur les objets techniques que sont la finance, la juridique et tout ça.
Ok.
Et donc c'est l'incubation quelque part.
Ok. Et donc c'est un parcours de formation.
Effectivement, donc on accompagne sur la phase d'émergence et d'incubation, c'est-à-dire quand la personne a ou n'a pas encore de projet, et quand elle en a un et qu'elle se lance en fait. Voilà, déjà, première chose. Ensuite, effectivement, on a choisi de faire le parcours sous forme de formation-action. Formation à la création d'entreprise, qui fait que les personnes peuvent se financer leur accompagnement par leur fonds CPF, leur compte personnel de formation. Voilà, on a agréé depuis fin d'année.
Ouais, donc c'est effectivement une formation, et à la fois ils sont vraiment au service de leur propre projet, et on les aide à faire.
Et c'est spécifique, il y a du collectif, mais vous l'avez dit, il y a aussi beaucoup d'individuels.
Absolument, il y a ces deux choses, et il y a cette idée de créer une communauté d'entrepreneurs dans le Val-de-Saône. Alors peut-être qu'on n'a pas précisé effectivement l'aspect géographique. Sonaissance, on s'appelle Sonaissance en référence évidemment à la Saône. Et dans Essence, il y a ESS, en majuscule quand on écrit le nom de notre association. Et c'est l'idée de focaliser notre attention, nos efforts sur ce territoire du Val-de-Saône. Et qui comprend effectivement de Lyon à Villefranche, et qui comprend aussi un petit peu l'Azergue. Où l'idée de, avec notre connaissance de plus en plus fine, effectivement, des acteurs associatifs, politiques, économiques de ce territoire, en connaissant aussi ses enjeux, ses vulnérabilités, ses grands projets, de pouvoir constituer une forme de communauté d'entrepreneurs ou de personnes qui veulent transformer le territoire par leur activité.
En quoi faut le transformer, le territoire? Et enfin, qu'est-ce qu'il faut, vers où faut le transformer? J'ai entendu le mot résilient.
Oui.
Il est beaucoup utilisé, ce mot. Qu'est-ce qu'on y met derrière?
La résilience, c'est la capacité à revenir à un état viable après un choc.
Ouais.
Voilà. Après un traumatisme. Donc on emploie la résilience dans la physique, mais là c'est pas trop ce qui nous intéresse, nous. La résilience, on parle de résilience de territoire quand il y a des vulnérabilités. Et on peut citer quelques exemples, le moins en moins d'eau potable, les chaleurs, le risque de pollution, l'électricité qui augmente, voilà. Donc comment un territoire peut continuer à fonctionner et être viable voilà, à cette échelle. Et puis pour l'individu, on a tous des événements marquants, traumatiques ou pas, enfin, en tout cas dans ce qu'on entend par traumatique. Et donc comment on arrive à être acteur et ne pas subir ces changements, et comment on revient à un état voilà, où on est bien, voire de mieux en mieux.
On vise donc la résilience effectivement personnelle et aussi collective, voire même sociétale. Et notre bassin de vie, effectivement, comme partout, peut-être en France et dans le monde, voilà, il y a ces grands enjeux, notamment écologiques, auxquels on fait face et qu'il faut, voilà, qu'il s'agit d'adresser.
Et là, il y a du boulot.
Beaucoup.
Ouais, il y en a beaucoup. Je comprends mieux peut-être le nom entrepreneur de sa vie qu'a le parcours de formation. Je vous demande la résilience sur le bassin, et vous me parlez des personnes individuellement, c'est qu'il y a forcément, il faut qu'il y ait un lien selon vous entre ce qu'on fait et ce qu'on est, c'est ça ?
C'est ça. C'est
bien dit.
Oui, c'est bien dit. C'est ce que je me suis attachée aussi à démontrer dans mon mémoire, c'est que je vais te donner un exemple tout simple. À partir du moment où tu prends soin de toi, tu fais attention à ce que tu manges, à l'air que tu respires, à ce que tu bois et à tes relations. Voilà, donc si on est sur un chemin de résilience et acteur, effectivement, de son bien-être et du respect de soi-même, on est en plus en capacité à être en bonne relation avec l'autre. Ouais. Et on fait attention à ce qu'on mange, donc on entre dans notre environnement. Voilà, d'où le changement de société qui va avec. Et quand on est, notre fer est aligné finalement sur ce que l'on est, et qu'on est de plus en plus authentique, il y a beaucoup plus de bonheur à œuvrer à quelque chose qui nous passionne en fait, qui va dans ce sens-là.
Et c'est pour ça qu'on a nommé le programme d'accompagnement entrepreneur de sa vie, c'est qu'on va donner beaucoup de soins à accompagner la personne autant que son projet.
Ouais.
Et aller voir son chemin de résilience, effectivement ses valeurs, ce qu'il a fait vibrer en fait, et avec la croyance derrière que en étant plus en résonance, en écoute, et en donnant plus de ce que la personne a envie fondamentalement, alors elle va être dans son vrai chemin et être en capacité de faire bouger les montagnes. Il y a tant d'histoires d'entrepreneurs et d'entrepreneuses qui sont voilà vraiment chouettes à entendre, et on a envie d'aider, de soutenir ces personnes à aller vers leur chemin singulier et voilà potentiellement lumineux, en lien avec aussi ce qui se passe concrètement dans le territoire.
Ouais, tout en étant très pragmatique, puisque on prend soin également, enfin on regarde toutes les compétences et expériences qui sont là, et comment on fait quelque chose de viable par rapport à ça.
Naissance, si on veut voir un petit peu tout ce que vous faites, si on veut se renseigner. Et quand on va dans histoire et valeurs, il y a écrit que votre ambition, c'est de changer quand même un territoire, de transformer tout un territoire.
De contribuer
à transformer un territoire.
De faire notre part.
C'est ça.
La part du colibri. Mais est-ce qu'il y a des aides, est-ce qu'il y a du soutien à ce projet-là ?
On a à l'émergence en hiver 2022, fin 2022, on a eu des fonds de la Fondation pour l'innovation sociale, co-portés par la métropole de Lyon, qui nous a vraiment permis d'avancer. Dès le début, on a choisi un modèle économique indépendant et on a pris cette direction de pouvoir avoir des formations qui sont finançables par le CPF, ce qui permet à des personnes qui n'ont pas forcément la trésorerie pour pouvoir s'offrir cet accompagnement, de pouvoir le faire en prenant sur ce fonds-là. Et ça, c'est notre levier pour pouvoir avancer et aussi avoir du temps, pas toujours forcément rémunéré, pour nous investir, pour faire du lien avec les associations, avec ce qui se passe par ailleurs sur le territoire. On a pas mal de liens des soutiens et des échanges très réguliers avec le monde politique, le monde de l'économie et de l'insertion sur le territoire.
Oui, il y a de très belles offres sur le territoire en termes d'incubation. Il y a Ronalpia, il y a Alteracube, qui sont sur le modèle des subventions. Ils ont, je ne sais pas, 10, 20, 30 places par an.
Ouais.
C'est pas énorme par rapport à la demande. Voilà, nous, on voulait avoir une offre complémentaire et en même temps, effectivement, comme disait Ludovic, être indépendant de tout changement politique potentiel.
Ouais.
On sait que les associations qui fonctionnent par subvention sont quand même très dépendantes des changements de politique. Donc, on a envie d'être au service aussi des personnes qui ont besoin d'être accompagnées et qui ont envie de partir avec nous.
Ouais. Très bien. Le site internet, j'ai plus en tête.
Sonnaissance.fr.
Sonnaissance, tout simplement. Ouais. Si on veut vous retrouver, vous contacter et pourquoi pas aller plus loin avec vous. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions.
Grand merci.
Avec plaisir.
Calade. La Méridienne.